Vatican News, le journal. Il est 13h.
Extrême tension entre l'Église catholique américaine et Donald Trump au lendemain d'une manifestation de désobéissance civile organisée à Washington pour défendre les droits des migrants. De nombreux prêtres religieux et responsables chrétiens sont en état d'arrestation. Plus de détails dans un instant. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis chaque jour plus vives dans le golfe Persique. Dernier incident en date, la destruction hier d'un drone iranien par un navire de guerre américain. Téhéran qui dément et assure avoir tous ses drones dans leur base. Jacob Zuma claque la porte du tribunal. L'ancien président sud-africain auditionné toute cette semaine dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption sous son mandat. Il dénonce une justice partisane. Difficile réintégration des anciens FARC en Colombie. Les ex-guerrieros cibles de plus en plus fréquentes d'assassinats. L'État colombien désemparé, l'ONU et l'Union européenne tentent d'intervenir. Nous le verrons.
Le journal Delphine Allaire.
Bonjour à tous. Les relations entre l'Église catholique américaine et Donald Trump très tendues sur la question migratoire. Une manifestation de désobéissance civile se tenait hier à Washington avec le soutien de plusieurs organisations catholiques. Nombreux de ses participants ont été arrêtés. Les jésuites du Canada et des États-Unis, la conférence des religieuses des États-Unis ou encore l'antenne américaine du mouvement Pax Christi soutenaient ce rassemblement organisé contre la réforme de l'immigration de l'administration Trump. Une réforme qui a mis en place depuis le 15 juillet un paquet de mesures pour durcir les critères d'admission des demandes d'asile et faciliter les expulsions. Cyprien Viette.
Rassemblés devant le Sénat, les participants à ce rassemblement ont prié et écouté les témoignages de migrants terrorisés à l'idée d'être séparés de leurs enfants et ils ont lu les messages de soutien de certains évêques. Des participants ont formé une croix humaine. 70 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles sœur Pat Murphy, une religieuse de 90 ans active auprès des migrants et réfugiés à Chicago. Nous sommes ici parce que l'évangile nous oblige à agir et nous sommes indignés par le traitement horrible réservé aux familles et en particulier aux enfants, a expliqué une représentante des religieuses américaines. Depuis plusieurs jours, les manifestations et prises de position de responsables religieux se sont multipliées. Le cardinal Daniel Di Nardo, président de la conférence épiscopale, a écrit au président Trump en dénonçant un climat de peur contraire aux valeurs américaines et chrétiennes. Même le cardinal archevêque de New York, Timothy Dolan, qui connaît personnellement le président, a dénoncé la répression brutale en rappelant que les États-Unis sont depuis leur origine une nation d'immigrés. De nombreuses paroisses et associations sont actives auprès des migrants. Un responsable du réseau de solidarité ignatien a expliqué que des manuels d'urgence sont distribués lors des messes en espagnol et que des paroisses font valoir leur statut de sanctuaire pour garantir la protection des familles. Ces organisations catholiques assurent que cette campagne de désobéissance civile ne fait que commencer.
Cyprien Viette. Viviane Lambert a reçu un message téléphonique du pape François qui a voulu manifester ainsi sa proximité à cette famille éprouvée par la situation de son fils Vincent Lambert, mort le 11 juillet. Un message laissé avant son décès. L'information vient d'être confirmée par Alessandro Gisotti, directeur par intérim de la salle de presse du Saint-Siège. Cet homme de 42 ans qui, suite à un accident de voiture, vivait depuis 2008 dans un état post-relationnel, avait fait l'objet d'une décision d'arrêt des traitements et de l'alimentation. Un choix dénoncé par ses parents comme une euthanasie déguisée. La riposte de Téhéran aux États-Unis cristallise des tensions toujours plus vives entre les deux pays. Après la destruction hier d'un drone iranien par un navire de guerre américain, la République islamique d'Iran dément des allégations délirantes allant jusqu'à ironiser sur le fait que Washington ait pu abattre un de ses propres appareils. Manuel Afi.
C'est Donald Trump lui-même qui en a fait l'annonce. Le drone iranien se serait trop approché de l'USS Boxer, un navire américain qui s'apprêtait à entrer dans le détroit d'Hormuz. Après plusieurs sommations, l'engin a été détruit, mais les Iraniens ont une autre version. Ils affirment ne pas avoir perdu de drone. Peut-être les Américains ont-ils abattu un de leurs propres appareils, suggère-t-on à Téhéran. Washington appelle quoi qu'il en soit toutes les nations à protéger leurs navires croisant dans la région, théâtre depuis des mois d'incidents graves, susceptibles de mettre le feu à la poudrière Moyen-Orientale. Il y a d'abord eu des actes de sabotage mystérieux sur des pétroliers en mer d'Oman, puis la destruction d'un drone américain cette fois par les gardiens de la Révolution, la force d'élite du régime de Téhéran, qui a d'ailleurs annoncé à son tour il y a seulement quelques jours avoir arraisonné un tanker étranger transportant 1 million de barils de pétrole de contrebande. Une réponse peut-être à l'arraisonnement d'un pétrolier iranien par la marine britannique le 4 juillet dernier. Dans ce bras de fer, cet œil pour œil et dent pour dent, toutes les parties s'accusent mutuellement de provocation et d'hostilité tout en se défendant de chercher l'escalade. Il semblerait toutefois que les deux camps soient ouverts à des négociations, le tout est de savoir à quel prix.
Manuela Afifi. Et aujourd'hui, la Cour suprême de Gibraltar, elle prolonge de 30 jours l'immobilisation du pétrolier iranien Grace 1, a résonné donc le 4 juillet dernier. Les autorités du Rocher escomptent collaborer avec les responsables iraniens pour faciliter le départ de ce navire. La Russie, une nouvelle fois prise à partie par des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou s'est opposée hier à une déclaration commune pour mettre fin aux attaques des hôpitaux et a une nouvelle fois démenti bombarder des installations civiles en Syrie sans convaincre les pays membres du Conseil de sécurité. Ces derniers mois, les combats se sont intensifiés dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest syrien. Plus de 370 000 personnes sont mortes depuis le début de la guerre en 2011. Les réfugiés palestiniens au Liban poursuivent leur mobilisation. Au lendemain de manifestations émaillées de violence à Beyrouth, ils protestent essentiellement contre un plan de réorganisation de la main-d'œuvre étrangère. Celui-ci est mis en œuvre par le ministre libanais du Travail. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a été dépêché en urgence à Beyrouth afin de désamorcer cette crise. Il part du principe que les réfugiés palestiniens installés depuis 1948 au Liban ne doivent pas être traités comme des travailleurs étrangers, mais bien comme une communauté ayant un statut spécial. Il ferme la porte à la coopération. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma ne veut plus apporter son aide à l'enquête en cours sur la corruption en Afrique du Sud durant son mandat. Une enquête pleine de parti pris dénonce ce matin son avocat, Marine Henriot.
Depuis le début de la semaine, l'ancien président sud-africain s'explique devant la commission d'enquête de Johannesburg. Il est chargé de faire la lumière sur les nombreux scandales qui ont éclaboussé sa présidence entre 2009 et 2018, des scandales qui l'ont finalement contraint à la démission il y a un an et demi. Mais depuis le début des auditions lundi, Jacob Zuma est traité en accusé, dénonce son avocat, qui parle d'un processus où, je cite, « la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite ». Alors dans la matinée, le coup prêt est tombé, il ne faudra plus compter sur la coopération de l'ancien président, a annoncé son avocat. Le témoignage de Jacob Zuma était pourtant attendu depuis des mois, mais finalement, il s'était limité en début de semaine à une plaidoirie dans laquelle Jacob Zuma estimait être victime d'une calomnie et d'une mystérieuse conspiration pour l'éliminer. À 77 ans, l'ancien président sud-africain est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État, notamment en favorisant les intérêts d'une sulfureuse famille d'hommes d'affaires dont il est proche.
Marine Henriot. Stabiliser le bassin du lac Tchad contre Boko Haram, c'est la mission qui animait les 8 gouverneurs des pays limitrophes réunis à Niamey au Niger jusqu'aujourd'hui. Un plan d'action contre l'insécurité dans la région a été adopté. 10 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire dans cette zone. Plus de 2,5 millions, elles, ont fui la région en 10 ans. 2 ans et demi après l'espoir d'une réconciliation nationale et la signature de l'accord de paix avec les FARC en Colombie, les anciens combattants visés par des assassinats récurrents. Face à cela, l'État colombien semble dépourvu, emmêlé dans des équations politiques inextricables. Daniel Pecco est sociologue spécialiste de la Colombie à l'EHESS. Il nous décrypte ses ambiguïtés et l'importance du soutien de la communauté internationale.
C'est vrai que la situation internationale est difficile puisque les secteurs les plus durs ont l'appui de Trump aux États-Unis et que Trump menace de prendre des sanctions contre la Colombie si la Colombie s'avère incapable de limiter l'expansion des cultures de drogue. Finalement, le gouvernement est pris entre tout cela, mais l'appui de l'ONU comme tel me semble d'une importance essentielle, beaucoup plus que symbolique. Ça veut dire que le gouvernement est sous pression, surtout que la situation économique en Colombie est difficile et qu'il ne peut mener des projets de réforme dans le cadre des accords de La Havane qu'avec l'appui financier d'une partie de l'Europe et d'autres secteurs de la communauté internationale.
L'exaspération des populations indigènes du nord de l'Amazonie péruvienne après une fuite de pétrole dans le principal oléoduc du pays en juin dernier. Les jours de grève et de blocage se succèdent. Cette semaine, 54 organisations indiennes de 12 bassins amazoniens ont annoncé toutefois lever leur mouvement en guise de geste politique. Les communautés locales demandent, outre la réparation des dommages causés par l'activité pétrolière, l'arrivée d'urgence d'une aide humanitaire dans les villages affectés par cette rupture du pipeline. Cela dans le département péruvien de Loreto. L'état d'urgence sanitaire avait été déclaré par les autorités. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité internationale et Vaticane vue de Rome revient tout à l'heure à 18h. En attendant, excellent après-midi à toutes et à tous.